Bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors, vous voyez d'après l'image que vous avez à l'écran que, puisque nous venons de quitter avec un soulagement non dissimulé en ce qui me concerne l'année du lapin pour entrer dans celle du dragon, permettez-moi de commencer aujourd'hui par vous souhaiter à tous et à toutes une année aussi faste que possible qui ne pourra être, du moins il faut l'espérer, que meilleure que la précédente. Alors donc, le cours d'aujourd'hui se fera sous la protection de ce joli dragon bleu qui est un estampage d'époque Han, celle qui nous préoccupe essentiellement cette année, et qui a été choisie pour être la mascotte de la collection de Budae en chinois classique que j'ai l'honneur de co-diriger aux éditions des Belles Lettres avec mon collègue Marc Kalinowski, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Alors, je parle de Budae car ceux d'entre vous qui ont peut-être étudié un peu de grec ou de latin au lycée connaissent sans doute cette fameuse collection des Budae, des Belles Lettres, qui a la particularité de présenter des traductions annotées avec le texte grec ou latin en vis-à-vis, ce qui permet non seulement aux lycéens que nous avons été de, comme nous disions, pomper la traduction de la version à rendre pour le lendemain, mais aussi aux lecteurs en général de voir par eux-mêmes quels sont les choix et les partis pris du traducteur. Or, c'est exactement le principe et le format des Budae que nous reprenons, donc en proposant du chinois classique à la place du grec ou du latin, avec l'idée d'introduire ainsi la vaste littérature rédigée en chinois classique dans ce que nous avons pris l'habitude d'appeler les humanités. Alors, la littérature en chinois classique, je le rappelle, ne concerne pas que la Chine, puisque, à la manière du latin dans l'Europe prémoderne, le chinois classique a servi de lingua franca pour les clercs, les savants et les personnes possédant un certain niveau d'éducation, donc le chinois classique comme lingua franca dans toute l'Asie orientale, qui comprend donc notamment la Corée, le Japon, le Vietnam, et cela pendant au moins un millénaire. Alors, cette collection bleue, placée donc sous le signe du dragon, lancée il y a 2 ans, en 2010, va bientôt compter 10 titres parus, dont un volet coréen et un volet japonais. Nous attendons encore d'ouvrir le volet vietnamien, mais en tout cas, je ne vais pas perdre trop de temps à vous présenter cette collection. Vous trouverez donc les détails, comme d'habitude, sur la page qui me concerne du site web du Collège de France. Alors, pour ceux d'entre vous que cela peut intéresser et qui n'ont pas encore vu comment ces volumes se présentent, j'ai apporté ici un exemplaire c'est-à-dire les 19 poèmes anciens qui se trouvent être d'époque Han. dans l'excellente traduction de notre maître à tous en sinologie, j'ai nommé M. Jean-Pierre Dieny. M. Dieny, qui se trouve être également l'auteur d'un ouvrage savant intitulé « Le symbolisme du dragon dans la Chine antique », qui a été publié par l'Institut des hautes études chinoises du Collège de France en 1987. Et donc un ouvrage que je signale parce qu'il est particulièrement d'actualité en ce début d'année. Donc je tiens à votre disposition ce volume des 19 poèmes anciens. Juste pour faire bonne mesure, donc vous avez ici un autre dragon donc d'époque Han, sur lequel vous apercevez donc un petit il est ce dragon est monté donc par un petit bonhomme qui apparemment est en position assez acrobatique, et vous avez également ici donc un dragon cheval, un longma, qui porte sur son dos le diagramme du fleuve, ce qu'on appelle en chinois le he tu. Vous avez la mention en haut à droite. Ce he tu, diagramme du fleuve, et je ne vais pas m'y attarder, je signale simplement ça parce que c'est d'actualité, mais il s'agit de l'une des références majeures de la numérologie chinoise. Et probablement, il s'agit donc d'une image qui est à l'origine de l'expression devenue courante, notamment en cette période de vœux, de Longma Jingshen. En ce moment même, vos amis chinois vous souhaiteront probablement assez fréquemment donc ce Longma Jingshen, c'est-à-dire donc un esprit de dragon cheval, c'est-à-dire donc beaucoup d'énergie et de dynamisme. Alors donc tout en restant sous l'œil du dragon, revenons maintenant à nos moutons. Donc la semaine dernière, nous avons vu de quelle manière et dans quel sens se profile une révision, si ce n'est pas une révolution copernicienne, dans notre conception et notre lecture du texte du Lun Yu. J'ai parlé de cette approche révisionniste qui a connu des précédents ponctuels, notamment dans la sinologie japonaise, mais qui revêt actuellement un caractère méthodique, largement inspiré, consciemment ou inconsciemment, des techniques mises au point depuis le XIXe siècle par la lecture critique du corpus biblique associé à l'exégèse protestante allemande. Alors, parmi ces techniques importées, je vous le disais, dans le champ des études chinoises, notamment par des sinologues d'origine allemande qui ont essaimé principalement dans le monde anglophone et qui, dans une certaine mesure, y ont fait école. Donc, parmi ces techniques figure celle de la Formgeschichte, qui donc appelle à ne plus envisager un texte sacré en particulier, comme une composition suivie et d'un seul tenant, attribuable à un auteur particulier, mais à considérer donc ce texte plutôt comme un assemblage d'unités textuelles relevant de divers genres littéraires. Alors, c'est ainsi que, si l'on applique cette technique au texte qui nous intéresse, c'est-à-dire donc le Lunyu, les entretiens, donc ce Lunyu ne serait plus à considérer comme un texte qui s'est développé de manière continue ou organique à partir d'un noyau originel dans une transmission ininterrompue assurée par les disciples de Confucius, ou bien à la manière cumulative d'un récif de corail ou d'un tronc d'arbre, comme c'est le cas dans l'hypothèse donc incrémentielle des Brookses, dont je parlais il y a quelques semaines, le U serait bien plutôt à se représenter comme une mosaïque, ou si vous préférez un patchwork, d'unités textuelles piochées ici et là et assemblées selon des dispositions ou des ordres différents en fonction de l'intention du ou des compilateurs ou bien du message à faire passer à telle ou telle époque. Alors, inutile de dire que nous sommes ici en pleine déconstruction et c'est le type de démarche, évidemment, qui ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Alors, ces unités textuelles qui, dans les textes chinois anciens, correspondent plus ou moins donc à la notion de Chang. Vous avez le mot ici en haut à droite. Ces unités textuelles, les spécialistes des textes anciens les ont nommées le plus souvent en anglais, puisque ce sont pour la plupart des collègues qui s'expriment et publient en anglais. Vous avez par exemple donc le sinologue américain William Bowles qui parle donc de movable units, hein, c'est-à-dire donc d'unités mobiles ou de building blocks, c'est-à-dire donc de blocs de construction que l'on peut se représenter comme les jeux de notre petite enfance, c'est-à-dire donc les cubes d'un jeu de construction. Un autre sinologue américain que vous avez juste en dessous, donc Edward Shaughnessy, parle de pericopes, c'est-à-dire donc de péricope, mot savant donc qui vient d'un mot grec désignant un découpage et qui est utilisé plus spécifiquement dans l'exégèse des textes sacrés ou la liturgie. La péricope est un, on pourrait dire, un morceau de texte formant une unité ou une pensée cohérente qui se tient et qui se prête aussi bien aux commentaires exégétiques qu'à la lecture en public dans un contexte liturgique notamment. Donc les textes qui sont lus, par exemple, dans une messe du culte catholique, donc, sont des péricopes. Alors, certains spécialistes ont même comparé ces unités textuelles ou péricopes à des feuilles volantes que l'on insère dans un classeur ou dans un autre, que l'on peut, donc des feuilles volantes qu'on peut ajouter ou retirer et dont on peut changer l'ordre à volonté. Alors, la dernière fois, à partir d'exemples fourni par donc le sinologue allemand Matthias Richter, que vous avez donc en seconde position sur le tableau, actuellement en poste aux États-Unis. On a vu comment des unités mobiles très concises, comme des expressions à quatre caractères. Alors, on citait donc la dernière fois cette expression, donc Shen Zhong Ru Shi, c'est-à-dire porter attention à la fin comme au début. Où vous aviez également cette autre expression à quatre caractères, Qiao Yan Ling Se, c'est-à-dire donc paroles habiles et figures engageantes. Donc, on a vu comment ces, on pourrait dire, péricopes très courtes pouvaient être réutilisées ou, comme on aime dire aujourd'hui, recyclées dans des contextes très différents, où, tout en préservant une formulation analogue à quelques variantes près, ces unités textuelles prennent une signification et une portée qui peuvent être très différentes d'un contexte à l'autre. Alors, pour ce qui est, par exemple, j'y reviens rapidement, de cette formule ou de cette unité textuelle Shen Zhong Ru Shi que l'on a eu tendance à associer à la sagesse dispensée dans le Lao Zi. Vous avez donc cette formule à la stance 64 du Lao Zi, qui est un texte, comme vous le savez probablement, classé taoïste par excellence. Taoïste parce qu'il est, il y est beaucoup question du Tao, de la notion de la voix. Alors, on s'aperçoit que cette formule, on la retrouve, parfois avec quelques variantes, dans un certain nombre d'autres sources de la fin de l'Antiquité et du début des Han, c'est-à-dire donc en gros autour du 3e, 2e siècle avant l'ère chrétienne, donc dans des sources qui sont habituellement étiquetées comme étant confucéennes, non pas taoïstes, mais confucéennes, telles que, vous l'avez en bas du tableau, le traité des rites, le Li Ji, et même donc tout en bas du tableau le Lun Yu, les entretiens donc attribués à Confucius. Alors, il semblerait que cette formule soit en réalité à replacer non pas spécifiquement dans le contexte de la sagesse taoïste, comme on a pu le penser, mais plutôt dans le contexte de conseils politiques dispensés par les ministres aux princes. Et c'est cela qui, en retour, nous rappelle que le Lao Zi est probablement avant tout un manuel ou un traité de politologie adressé donc aux princes. Alors, à l'inverse, dans l'autre formule dont nous parlions la dernière fois, donc Qiao Yan Ling Se, c'est-à-dire donc paroles habiles et figures engageantes, que l'on retrouve, comme vous le voyez en haut du tableau, à plusieurs reprises dans le Lun Yu, et que l'on a en conséquence considéré comme représentative des principes fondamentaux de l'enseignement de Confucius, à savoir une méfiance marquée vis-à-vis des belles paroles, c'est-à-dire de la rhétorique, et des mines séduisantes, c'est-à-dire donc de la séduction en général, eh bien, cette formule se retrouve, comme on l'a vu, dans des sources réputées résolument anti-confucéenne, hein, comme vous l'avez donc ici dans le Shang Junshu, qui est donc le livre du prince Shang, hein, l'un des ouvrages de référence de la pensée légiste, de ce qu'on appelle en chinois le fa jia, et que vous trouverez dans la traduction française de Jean Lévy, hein, qui s'est spécialisé un petit peu justement dans ces ouvrages d'inspiration légiste. Alors, je rappelle que les légistes sont les adversaires farouches des confucéens. Alors, retrouver donc la même formule dans des sources qui sont censées être diamétralement opposées montre bien que ces unités textuelles faisaient partie probablement d'une sorte de pot commun et pouvaient se retrouver utilisées dans des textes et des contextes très différents, parfois même opposés, et donc utilisés à des fins très différentes. Alors, l'hypothèse de Matthias Richter, qui nous fournit cet exemple, est que cette formule, donc, de paroles habiles et mine engageante, reflèterait plutôt la terminologie de traités de caractérologie, hein, c'est-à-dire donc d'évaluation des caractères ou des des qualités et défauts d'une personne quand on est dans la situation du recruteur. La caractérologie est encore à l'heure actuelle largement pratiquée dans les entreprises, dans les directions des ressources humaines, comme on les appelle, des entreprises pour donc le recrutement de leurs employés. Alors, selon Richter, donc, nous aurions ici quelque chose qui ne relève pas du tout de l'enseignement d'un quelconque Confucius historique, mais bien plutôt donc d'une tradition donc de caractérologie. Alors, un troisième exemple nous est fourni, là vous allez dire oh là là, ça fait beaucoup de chinois, mais j'espère que, étant donné que vous êtes toujours là, vous arrivez quand même à suivre, même en ne connaissant pas le premier mot de chinois. Donc, un troisième exemple est étudié par Olivier Weingarten, dont vous avez le nom sur ce tableau, qui, comme son nom l'indique légèrement, est un jeune chercheur allemand. Weingarten voulant dire vignoble en allemand, un nom, donc un nom très intéressant, qui a donc récemment achevé un remarquable travail de thèse à l'université de Cambridge en Angleterre. Il faut maintenant préciser Cambridge, England, parce que les Américains ont tendance à comprendre Cambridge, Massachusetts, près de Boston. Bon. Donc, un travail de thèse à Cambridge en Angleterre, donc, sur la composition du leyu. Et justement en appliquant les méthodes, notamment de la Formgeschichte, justement d'origine allemande. Et donc Oliver Weingarten, donc dans un article daté de 2009, s'est penché sur deux passages du livre 10, ou du chapitre 10, si vous préférez, du Leyu. Alors, ce livre 10, j'ai eu l'occasion donc de vous en parler l'année dernière, dans le contexte de nos lectures du livre du philosophe pragmatiste américain Herbert Fingeret, Confucius, the secular as sacred, c'est-à-dire Confucius, le séculier en tant que sacré. Alors, ce livre 10, je vous expliquais qu'il a énormément intrigué et embarrassé les commentateurs modernes, qu'ils soient chinois ou occidentaux, car à la différence des autres livres des entretiens, ce livre 10 n'est pas composé de propos ou dialogues attribués à Confucius, mais de prescriptions à première vue d'une maniaquerie sans nom sur la manière correcte de se déplacer, de se comporter, de se vêtir, de se nourrir et même de dormir, lesquels proviennent très probablement donc de traités sur les rites. Alors, c'est donc, comme je viens de le rappeler, dans le contexte de notre lecture de Fingeret que nous en sommes venus à nous intéresser à une prescription isolée et particulièrement bizarroïde et maniaque en apparence. Alors, cette prescription, vous l'avez ici. Voilà. Donc, elle constitue l'intégralité de la section 12 du livre 10. Donc, comme vous le voyez, même sans comprendre ce que ça veut dire, elle tient en tout et pour tout en 5 caractères. Et ce qui en fait la section ou chang, donc, ou l'unité textuelle la plus courte de tout le Lunyu. Alors, ces 5 caractères se lisent xi bu zheng, bu zuo, c'est-à-dire donc littéralement si la natte, pas celle qu'on porte dans les cheveux mais celle sur laquelle on s'assied, donc si la natte n'est pas zheng, c'est-à-dire posée droit, bu zuo, on ne s'assied pas dessus, ou plus exactement on ne s'agenouille pas dessus. Alors, en lisant cette section avec vous l'an dernier, je m'étais arrêtée sur cette notion de zheng que vous avez ici. Ma flèche qui ne revient pas. Oui. Je demande la flèche. Oui, ici, donc, vous avez ce caractère zheng qui dénote donc une posture droite, et qui cette posture droite dénote elle-même une droiture morale. Et il est intéressant de voir qu'elle est notée à l'écrit au moyen d'un caractère qui occupe lui-même un carré parfait. Alors, cette notion de droiture, de ce qui se tient naturellement droit, apparaissait comme étant crucial pour comprendre non seulement l'esprit quintessentiel des rites, mais aussi pour comprendre ce que Fingeret en avait compris. Or, dans son article, Oliver Weingarten part dans une direction tout autre. En appliquant donc les techniques de la Formgeschichte et notamment de ce qu'il appelle l'intertextualité, c'est-à-dire donc la confrontation entre diverses sources textuelles, il montre de manière très intéressante que cette prescription de ne pas s'asseoir sur une natte qui n'est pas posée droit, prescription qui, dans le contexte du textus receptus du Lehu, a l'air de sortir de nulle part, est en fait une unité textuelle qui allait à l'origine de pair avec une autre unité textuelle insérée dans un autre passage du même livre 10, mais à la section 8. Et donc cette section 8, vous l'avez donc reproduite ici dans son entier. Vous remarquez qu'elle ne se présente pas de la même façon. J'ai dû la photographier dans une édition chinoise parce qu'il y a des caractères qui sont trop rares et qui ne se trouvent pas donc, dans les fontes chinoises actuelles. Donc, d'où la disparité donc, de présentation. Alors, dans cette section 8, vous avez, entre autres, la préconisation que vous trouvez ici et qui préconise de ne pas manger, sous-entendu, de la viande qui n'a pas été découpée droit, c'est-à-dire donc dans les règles. Alors, vous remarquez tout de suite qu'il y a un parallélisme entre cette formule, donc ke bu zheng bu shi, avec cette autre formule xi bu zheng bu zuo. Donc, Oliver Weingarten, donc en pratiquant ce qu'il appelle lui-même l'intertextualité, donc en est arrivé justement à montrer que ces deux formules parallèles, en réalité, allaient ensemble à l'origine. Alors, dans le textus receptus du Lehu, c'est-à-dire le texte des entretiens tel qu'il nous a été transmis, tel que nous l'avons aujourd'hui, cette deuxième formule se trouve, à la différence de l'autre, non pas toute seule, mais enfouie en quelque sorte au milieu d'un monceau d'autres prescriptions sur ce qu'il convient de ne pas manger. Alors, vous avez, et là aussi, c'est pas la peine, comment dire, de connaître le chinois pour le constater. Vous avez cette formule récurrente, push, en deux caractères. Vous avez ici donc, alors il est question donc de comment dire, de nourriture pas fraîche, poisson pas frais, etc. Donc nourriture dont la couleur vous paraît bizarre, l'odeur pas très catholique, etc. Enfin donc nourriture qui n'est pas de saison. Enfin bon, bref, vous avez donc toute une série de prescriptions sur ce qu'il convient de ne pas manger, avec chaque fois donc ces deux caractères poche, c'est-à-dire on ne mange pas, ne pas manger donc ces choses-là, poche, poche, poche. Vous avez donc ces deux caractères qui reviennent. Alors, vous avez quelque chose qui est enfin d'une méticulosité qui est tout à fait digne en fait de la cache-route. Alors, ce qui est un petit peu réconfortant, en revanche, c'est cette ligne-là, Wei jiu wu liang, bu ji luan, c'est-à-dire que il n'y a pas de limite sur l'alcool. Mais s'empresse-t-on de rajouter, donc, mais il ne faut pas aller jusqu'au désordre, c'est-à-dire donc jusqu'à la se saouler complètement, hein, quand même. Bon. Rappelons que nous sommes dans un contexte ritualiste. Alors, la double prescription, donc, de ne pas s'asseoir sur une natte qui n'est pas posée droit et de ne pas manger, hein, que pucheng pushi, donc de ne pas manger ce qui n'est pas coupé droit, hein, ou coupé dans les règles, hein, faisait sans doute partie d'un ensemble plus large à replacer dans le contexte de traités qui sont certes d'ordre ritualiste, mais qui, et ça c'est donc la découverte d'Oliver Weingarten, qui porte plus spécifiquement sur l'éducation du fœtus, l'éducation fœtale, hein, ce qu'on appelle donc en chinois, ce que vous avez en, tout en bas du tableau, donc le taijiao, d'où l'apparition, le taijiao, qui est une idée donc très ancienne, hein, il y a donc cette idée que le fœtus est d'une certaine manière déjà un être humain. Alors, vous savez que cette question agite beaucoup les esprits et les sociétés en ce moment. Mais en tout cas, pour les Chinois dès l'Antiquité, donc le fœtus est d'ores et déjà un être humain en puissance. Et par conséquent, l'éducation, si possible confucéenne, doit commencer dès ce stade donc fœtal. Alors, je dois avouer que ça ne réussit pas toujours. J'ai bien essayé de faire ça sur mes deux filles et je n'ai pas l'impression que ça ait fonctionné exactement comme je l'attendais. Mais toujours est-il donc que l'apparition de cette double formule, on ne s'étonne pas tellement de la voir apparaître dans des sources édifiantes d'époque Han, hein, du début des Han, comme donc le Han Shi Wai Zhuan et le Lienu Zhuan. Le Lienu Zhuan qui est une sorte de recueil édifiant, hein, de biographies, donc de femmes exemplaires. Alors dans le Han Shi Wai Zhuan, vous avez donc la double formule dans cet ordre-là, c'est-à-dire donc xi bu zheng bu zuo, donc sur une natte qui n'est pas posée droit, on ne s'assied pas, et ge bu zheng bu shi, hein, c'est-à-dire donc une nourriture, de la viande qui n'est pas découpée droit, hein, on ne la mange pas. Hein. Et dans le lianu zhuan, donc pour donc ces femmes exemplaires, on inverse, hein, c'est-à-dire donc on ne mange pas de la viande qui n'a pas été découpée dans les règles et on ne s'assied pas de travers, hein, sur sa natte. Et tout cela est donc censé, comment dire, mettre le fœtus déjà dans une position droite. Alors, ainsi donc, ce que Li Ling, notre historien de l'université de Pékin, dans la citation que je donnais la semaine dernière, hein, ce que Li Ling donc appelait l'état liquide, yéti, hein, voire gazeux, qi-ti, hein, des textes de l'Antiquité pré-impériale et des Han, est en réalité, cette liquidité, cette fluidité, est en réalité due à la très grande mobilité de ces unités textuelles qui circulaient donc d'un texte à l'autre, hein, ou qui se retrouvent actuellement dans des ordres différents d'une version à l'autre d'un même texte. Alors, cette l'habilité de l'écrit peut bien refléter une part de transmission et de circulation orale, qui reste cependant à évaluer avec certitude et précision. Mais autant dire qu'il s'agit là d'un travail, sinon impossible, du moins extrêmement difficile. Et nous pouvons en juger de par les difficultés que rencontrent nos collègues biblistes, justement sur ce point, de la part de l'oralité dans la transmission première donc du corpus biblique. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, et peut-être que nous pourrons finir là-dessus aujourd'hui, c'est que la circulation ou la diffusion de ces unités textuelles peut aussi se faire non seulement par l'oralité ou par l'écrit, mais aussi par des moyens et sur des supports pour le moins inattendus, du moins pour nous. Alors, je pense que vous avez à peu près saisi un petit peu ce qu'on peut entendre par ces unités textuelles. Et l'idée donc que nos textes anciens, ces textes que la tradition a considérés comme sacrés, sont constitués donc de ces unités mobiles. Et comme nous allons le voir la prochaine fois, cette idée semble être confirmée par les textes manuscrits, la plupart donc écrits sur fiches de bambou, qui ont été exhumés à la faveur des fouilles archéologiques pratiquées en Chine depuis les 40 dernières années. Parce qu'il ne faut pas oublier justement que ces avancées dont je vous parle depuis quelques semaines sont une sorte d'effort conjoint à la fois méthodologique, puisque donc il s'agit d'appliquer ces méthodes de lecture qui ont été éprouvées sur le corpus biblique d'un côté, et d'autre part il y a également le corpus des textes manuscrits qui ont été donc retrouvés assez récemment donc dans les tombes, et là nous avons une espèce de convergence tout à fait intéressante. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui, et de nouveau, donc, je vous souhaiterais donc un long ma jing shen, donc un esprit donc du dragon cheval, plein d'énergie. Merci beaucoup.